La première, podcast.
Le Forum de Midi. Le Forum de Midi. Fabienne Vandemersch.
Bonjour, bienvenue dans le Forum de Midi. La météo est déjà en temps normal l'un des thèmes de conversation favoris, mais ces dernières semaines, on peut dire que le sujet est devenu quasi obsessionnel. Il faut dire qu'on ne comprend plus grand-chose à ce qu'il se passe. De la chaleur au mois de février, des températures de Toussaint au début juin, tout ça semble bizarre. Est-ce aussi anormal qu'il y paraît? Nous allons en parler, nous verrons aussi les conséquences que ces conditions climatiques font peser sur un certain nombre d'activités. Et si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur... lapremiere.be.
Et je vous présente tout de suite nos invités. Mélanie Arzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'université de bio, à l'unité de biodiversité et paysage à Jean Blou Agrobiotech. Michel Herpicom, bonjour.
Oui, bonjour. Madame.
Vous êtes professeur de climatologie à l'ULG, directeur du laboratoire de climatologie et président de l'Association internationale de climatologie, l'AIC. Et Pascal Mélier est également là, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes météorologue au service des prévisions à l'Institut royal de météorologie, l'IRM. Et tout de suite, nous allons rejoindre par téléphone à Zurich Sonia Seneviratne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes professeure assistante à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Et si je vous ai demandé d'être là par téléphone pour ouvrir cette émission, c'est parce que vous êtes un peu avec vos confrères et consoeurs franco-suisses au départ de cette émission, à l'origine, le prétexte en tout cas de cette émission, puisque vous avez, avec vos confrères et consoeurs, analysé 60 ans de données de précipitations et de températures provenant de 200 stations météo européennes, c'est bien ça ?
Oui, c'est correct.
Et vous avez des données déterminantes qui permettent de prévoir finalement des événements extrêmes comme les vagues de chaleur. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Oui, d'accord. Donc en fait, dans le cadre de cette étude, comme vous avez dit, qu'on a conduit en collaboration avec des collègues aussi en France, en fait, il s'agissait d'évaluer le lien entre les conditions au printemps et l'occurrence de jours de canicule, donc de vagues de chaleur en été. Parce qu'en fait, il y a eu des études précédentes sur ce sujet qui montrent qu'il y a un lien possible, en fait, entre les conditions sèches au printemps et des vagues de chaleur. Et en fait, dans le cadre de cette étude, nous avons voulu étudier les facteurs qui contribuaient aux vagues de chaleur, dans un cas, en fait, les conditions sèches, mais dans un autre cas aussi, les conditions atmosphériques.
Donc en fait, on pourrait désormais prévoir de fortes vagues de chaleur, comme celles qu'on a connues en France en 2003, par exemple.
Oui, alors bon, ça s'inscrit plus dans le contexte des changements climatiques. Donc les projections climatiques nous font attendre qu'il y aura en fait plus de vagues de chaleur similaires à 2003 dans les décennies qui vont venir. Donc c'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse avoir des meilleurs outils de prévision en fait pour ces vagues de chaleur.
Mais donc en fait, après des mois de janvier à mai, je résume un petit peu, hein, madame. Donc
oui.
Après des mois de janvier à mai très pluvieux, il est rare qu'il y ait ensuite de fortes chaleurs.
Oui, c'est exact. Donc en fait, si on a eu peu de neige au janvier-février, si le printemps était relativement humide, il y a peu de vagues de chaleur. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir un outil de prévision qui nous permet de dire qu'en fait, il y a peu de risques d'avoir des vagues de chaleur. Par ailleurs, si l'hiver et le printemps a été sec, il y a plus de risques de vagues de chaleur, mais en fait, c'est seulement un des facteurs qui contribue en fait à la vague de chaleur. L'autre facteur, c'est les conditions atmosphériques.
Mais en fait, pourquoi est-ce que ce sont seulement les précipitations ? Alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, j'ai peut-être mal compris votre étude, mais pourquoi est-ce que ce sont seulement les précipitations localisées dans le sud de l'Europe qui permettent de prévoir les températures ou des conditions atmosphériques sur l'Europe de l'Ouest et du Centre ?
Oui, d'accord. Donc en fait, d'abord, il y a vraiment un lien local, c'est-à-dire qu'en fait, on peut déjà établir un lien très précis, disons, dans le sud de l'Europe, Par ailleurs, il semble avoir effectivement une propagation du sud vers le centre de l'Europe. Et ça, bon, il y avait une autre étude là-dessus qui avait été en fait conduite par nos confrères français, mm-hmm. qui montre que ça peut être lié en fait à un transfert en fait d'air sec du sud vers l'Europe centrale.
Alors, nous avons avec nous en studio notamment Michel Herpicom, vous l'avez sûrement entendu puisque je l'ai présenté il y a un instant, qui est président de l'Association internationale de climatologie, qui est professeur à Liège de climatologie. Professeur Herpicom, vous souhaitez poser une question peut-être à Madame Sénévératné.
Oui, merci beaucoup. Quelques informations complémentaires. Quand vous parlez de vagues de chaleur, c'est une expression qui me paraît assez vague, parce que une vague de chaleur en Belgique, en Suède, dans le sud de la France, c'est pas du tout la même chose. Et deuxième chose qui me perturbe un petit peu dans cette étude-là, comme Madame Van der Merch en a parlé, c'est que vous vous focalisez sur le sud, et si j'ai bien lu vos papiers, c'est sur le sud-est, donc c'est même sur la Grèce, et pas sur la France. Et souvent, quand il y a de la sécheresse qui arrive dans le nord de l'Europe, en Belgique en tout cas, il y a un anticyclone sur la Scandinavie, et je ne vois pas à quoi ça fait référence à la Méditerranée.
Oui, non, mais c'est exactement en fait ce dont parle l'article. Donc il montre effectivement qu'il y a deux facteurs qui contribuent en fait. Quand je parle de vagues de chaleur, c'est un petit peu pour simplifier les termes en fait. Ce qu'on a étudié, c'était les jours chauds qui sont définis en fait au-dessus d'un seuil critique. Donc c'est en fait, on considère le nombre de jours chauds qui font partie en fait des 10% les plus chauds. Maintenant, pour ce qui est effectivement des conditions de l'Europe centrale, ce qu'on montre en fait, c'est qu'effectivement la présence d'anticyclones, donc de zones de haute pression, est aussi un facteur très important, mais en fait c'est la combinaison des deux facteurs qui est importante. C'est-à-dire d'un côté, en fait, les conditions sèches au printemps, et d'un autre côté, effectivement, la présence de zones de haute pression.
Oui, merci, madame.
Voilà. Est-ce que, Pascal Mélier, vous avez une question à poser à madame tant qu'elle est avec nous par téléphone?
Je voulais savoir, en fait, quand on parle de nombre de jours chauds, ce n'est pas de nombre de jours chauds consécutifs, il s'agit bien de jours, un compte de jours individuels.
Oui, c'est ça, c'est correct. Ouais. Mais on avait en fait une autre étude en fait qui a été conduite par notre groupe. On a étudié à la fois le nombre de jours chauds. Ça, c'était uniquement pour le sud-est de l'Europe. Le nombre de jours chauds et la longueur des vagues de chaleur. Hein. Et en fait, on voit un effet sur les deux. Mais
alors, une dernière question avec vous, madame, si vous le permettez. Donc, on l'a dit, après des mois de janvier à mai très pluvieux, il est rare qu'il y ait ensuite de très fortes chaleurs. En revanche, on peut le dire, des mois de janvier à mai plutôt secs n'impliquent pas nécessairement de fortes chaleurs à l'été qui suit. Donc, pourquoi est-ce que l'inverse n'est pas automatiquement vrai? Voilà, c'est une question un peu béotienne, hein, je m'empresse de vous le dire, mais qui saute peut-être un peu aux yeux de tout le monde.
Oui. En fait, justement, pour revenir en fait au processus qui induisent ces jours chauds, donc il faut avoir à la fois justement ces conditions de haute pression, et d'un autre côté, en fait, il y a un facteur additionnel qui contribue à la température élevée, c'est que en fait, si les sols sont secs, il y a moins d'évapotranspiration des végétaux, ce qui en fait augmente la température de l'atmosphère. C'est un peu comme un mécanisme qu'on a dans le cas de la transpiration humaine. Tant qu'on peut transpirer, en fait, ça réduit la température du corps. Mais s'il y a moins de transpiration, ça va fortement augmenter la température. Donc on a un facteur similaire qui fait qu'en fait, si les sols sont secs et si on a des conditions de haute pression, on peut avoir une augmentation de la température. Maintenant, si en fait les conditions atmosphériques ne conduisent pas, par exemple, à des zones de haute pression, il n'y aura pas des jours chauds, même si les sols sont secs. Donc c'est juste en fait un facteur qui induit une amplification des températures.
Évidemment, maintenant, vous allez passer au stade des applications ou des conclusions de ce type d'études. Une fois qu'on a mis cela en place, j'imagine que les recherches suivantes sont déjà programmées.
Oui, exactement. Donc l'idée, c'est que maintenant qu'on a pu identifier ces mécanismes, on pense qu'on pourrait utiliser en fait ces processus pour améliorer les prévisions saisonnières. Donc c'est effectivement l'étape suivante.
Très bien. Je vous remercie, madame, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure assistante à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, en Suisse, Sonia Seneviratne. Merci beaucoup et à très bientôt. Nous allons continuer, évidemment, cette émission avec vos questions, vos commentaires, si vous en avez, sur justement le climat, l'évolution du climat, la météo, les implications que cela a dans notre vie quotidienne, aussi pour les agriculteurs. Nous aurons un agriculteur tout à l'heure en ligne, car la situation est compliquée pour le moment. Et nous nous retrouvons juste après ceci.
Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031.
Et aussi par téléphone au 02 737 37 07 sur le site lapremière.be et sur la page Facebook Forum de Midi. Je vous rappelle qui sont nos invités aujourd'hui. Nous parlons du climat, de la météo, les conséquences que ces météos ont évidemment dans notre vie de tous les jours et puis à plus long terme évidemment. Mélanie Arzé est avec nous, elle est doctorante à l'unité de biodiversité et paysage à Jean Blou Agrobiotech. Pascal Mélier est là également et il est météorologue au service des prévisions à l'Institut Royal de Météo. Et Michel Herpicom, professeur de climatologie à l'ULG et aussi président de l'Association internationale de climatologie. Alors, monsieur Herpicom, puisque je termine la présentation avec vous, votre spécialité à vous, c'est la topoclimatologie.
C'est bien ça.
Voilà, c'est une partie de la climatologie.
C'est en fait la climatologie qui est liée et très dépendante à tous les milieux géographiques, quels qu'ils soient, que ce soit la ville, la forêt, les espaces artificiels ou naturels, et partout dans le monde. Donc, c'est de la science qui étudie la variabilité exceptionnelle du climat dans le temps et dans l'espace.
Et vous avez, au laboratoire de climatologie de l'ULG, vous avez notamment un parc météo, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire un site avec des instruments pour surveiller l'évolution du climat futur.
Du climat actuel, en tout cas. Nous avons deux parcs très, très bien instrumentés, un au Sartilmont, dans le domaine universitaire, et un à la station du Mont-Rigui, qui est une sentinelle qui a un statut européen pour le moment, qui sera probablement mondial d'ici une dizaine d'années, de surveillance hors influence humaine dans une zone où il n'y a pas d'industrialisation, d'urbanisation, pour avoir un meilleur suivi quand la série sera suffisamment longue, parce que les instruments changent, et quand les instruments changent, on a des ruptures dans les séries, on ne sait plus ce qu'on compare.
Mais alors vous dites, on n'est pas dans une zone où il y a une activité humaine, mais on sait quand même que l'activité humaine, même lointaine, a des effets sur l'environnement et donc sur le climat.
Bien entendu, mais quand je parle de la contamination humaine, donc l'influence humaine, c'est l'urbanisation par exemple. Les longues séries climatiques sont toutes contaminées, je pourrais dire, par l'urbanisation très différente d'un endroit à l'autre et qui accentue l'effet de réchauffement de température dans ces stations-là. C'est pour ça qu'il faut en mettre loin de tout cela pour ne mesurer qu'un signal, le signal atmosphérique et pas la contamination locale.
Alors juste pour faire le lien avec ce dont on a parlé avec la professeure de Zurich tout à l'heure, le fait que des sols humides ne favorisent pas, ou très très humides ne favorisent pas l'apparition d'une canicule, c'est pas une toute grande nouvelle. Peut-être Mélanie Arzé, le fait qu'il y ait beaucoup de pluie, quand l'énergie solaire se met en route, elle va surtout être utilisée pour l'évaporation des sols, donc forcément, ça ne va pas augmenter les températures. Donc, il y a quelque chose de logique et qu'on savait déjà un petit peu.
Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que ça va d'abord être l'évaporation des sols et puis les plantes qui vont utiliser l'eau du sol. Mais oui, c'est peut-être pas quelque chose de tout nouveau, comme vous le dites.
Est-ce que dans les études que vous avez faites et que vous continuez à faire, évidemment, les études de biodiversité, paysage, l'agrobiotechnologie, etc. Et d'ailleurs, je pose la question aussi à M. Mélier et à M. Herpicom, la climatologie, la météorologie. Est-ce que ce sont des disciplines qui ont un regain d'intérêt ou un véritable intérêt ces dernières années pour les étudiants? Est-ce que ce sont des études qui sont... qui bénéficie d'une certaine façon des préoccupations que tout le monde a sur le climat, sur la météo, sur la biodiversité. Monsieur Mélier, à l'IRM.
Oui, je pense que oui. Un bon nombre d'universités ont ouvert de nouvelles lignes.
Et de nouvelles chaires d'études.
C'est ça, oui. Donc, le débat sur les changements climatiques, par exemple, n'est certainement pas étranger à ça.
Mm-hmm. La climatologie, d'étudiants, M. Herpicom.
Nous avons des étudiants qui entrent dans le premier cycle extrêmement passionnés par ce qui les interpelle à travers les médias. Mm-hmm. Et puis alors, comme c'est une voie assez difficile, il y en a assez bien qui s'écartent de cette voie-là, au profit d'autres voies plus faciles pour obtenir le même type de diplôme. C'est un peu désolant. Mais c'est une discipline qui est à la mode depuis, je dirais, 1970. Et moi, je la pratique depuis ce moment-là. Je me déclarais climatologue et tout le monde se moquait de moi. « Oh, c'est facile, tu fais des statistiques sur le passé. C'est plus difficile de faire des prévisions. Là, au moins, tu devrais te mouiller. Mm-hmm. » Et personne ne se déclarait climatologue. Et maintenant, je n'entends plus qui que ce soit qui se déclare météorologue dans cette science.
Mais
lui, parce qu'il fait de la prévision tous les jours, évidemment, c'est sa profession. Ouais. Mais on n'entend plus qui que ce soit se déclarer météorologue. Alors qu'à cette époque-là, tout le monde était météorologue. Mm-hmm. Mais les climatologues, on les méprisait, je peux le dire. Mm-hmm. Et maintenant, on recherche les bons.
C'est ça.
Bon, voilà ce que je veux dire.
Voilà. Mélanie Arzé, en biodiversité, du succès, oui.
Oui, tout à fait. Je pense que quand on étudie la biodiversité, étudier l'impact des changements climatiques globaux, c'est quelque chose qui coule de soi. Ça a un impact important sur toutes les espèces. Et donc, oui, c'est un sujet d'étude important.
Oui, voilà. Qui est devenu très, très important.
Oui, je pense qu'avec le courant des changements climatiques, changements globaux, etc., ça va de soi. Oui.
Alors, une remarque par rapport à ce dont on parlait sur cette annonce franco-suisse. Il y avait un climatologue français qui expliquait dans le Parisien à 2-3 jours que finalement, oui, tout ça est bel et bien, mais qu'il suffit qu'un anticyclone reste bloqué pendant un mois sur le pays pour que les sols redeviennent secs. Et à ce moment-là, on peut repartir de zéro. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication?
Mais moi, j'ai une réaction à ce propos-là. C'est tout à fait exact. En fait, dans notre pays qui est gâté en matière d'eau, il pleut un jour sur deux. Quand on a une sécheresse qui dure 4 semaines, c'est la catastrophe. Mm-hmm. Et pour moi, ce n'est pas encore une sécheresse. Donc c'est relatif en fonction de ce à quoi on est habitué. Et pour le moment, il pleut très souvent. Il pleut presque tous les jours. On n'a pas beaucoup de soleil. Le temps n'est pas le temps de saison, enfin le temps attendu. Et on crie à l'anomalie. Or, on oublie très vite que le climat a toujours été, dans nos régions comme ailleurs, très très, très très variable, et on a une mauvaise mémoire de ces faits-là. Et on s'intéresse surtout à ce qui nous tracasse, par exemple, aux conséquences de la variabilité climatique. Mm-hmm. Nous sommes devenus de plus en plus vulnérables par rapport aux mêmes phénomènes météorologiques.
Alors ça rejoint ce que nous dit Robert, hein, nos auditeurs sur notre site, qui dit « Faut-il vraiment s'étonner de cette météo ?» Je me souviens des mois de juin et juillet 1981, mois de juin, même type de temps que maintenant, juillet, pluie presque tout le mois, mais on a la mémoire courte et sélective, nous dit Robert, on retient quand il fait beau et pas quand il fait mauvais. Mmh. Alors ça c'est effectivement du bon sens. Et alors il a rajouté qu'il avait vérifié entre le 21 juin et le 20 juillet 80 qu'on avait eu une pluie discontinue, on a eu 243 millilitres. Vous vous souvenez de ça, monsieur?
Non.
Alors justement, à propos des prévisions saisonnières, elles n'ont quand même qu'un caractère probabiliste, si on peut dire. Je veux dire qu'il n'y a rien de sûr et certain écoulé dans le bronze.
Certainement. La prévision saisonnière est certainement loin d'être une promesse. Mmh. Et demande un effort de la part de l'utilisateur, en fait, d'examiner les probabilités, les divers scénarios probables. Mm-hmm. L'incertitude est très large à ce type d'échelle temporelle et on ne peut pas faire autrement.
Alors nous avons un auditeur en ligne qui souhaite poser une question, c'est Patrick. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour, bonjour à tous vos invités.
Oui.
En fait, moi, j'ai une question très précise.
Oui.
Je voulais savoir si le changement climatique pourrait induire de plus en plus, dans les années futures, des phénomènes extrêmes comme, par exemple, la mini-tornade dans Limbourg ou les orages extrêmes de mardi dernier. Et de cette question-là, évidemment, partant, dispose-t-on de moyens prévisionnels pour, ma foi, prévenir la population qui pourrait être concernée par ces phénomènes-là.
Donc, à la fois, votre question, et on prendra le temps d'y répondre après les infos, bien sûr, hein, monsieur, mais votre question, c'est à la fois de savoir si, d'une part, ça va se reproduire avec l'évolution du climat et les changements climatiques, et votre question, est-ce qu'elle implique aussi le fait de demander si ce qu'on a connu, comme par exemple la tornade d'il y a un an au Pukkelpop, ou bien les orages, sont déjà des effets du changement climatique. Je suppose qu'il y a les deux éléments qui entrent.
Oui, vous avez raison. Et c'est surtout aussi de savoir si nous allons connaître de plus en plus de phénomènes extrêmes.
C'est ça. Eh bien, écoutez,
sous nos latitudes, par exemple, la façade d'Europe occidentale, moi, je me souviens, dans ma jeunesse, on ne connaissait pas de phénomènes pareils, quoi.
Très bien. Je vous remercie, monsieur, d'être intervenu. Nous allons répondre à votre question après les titres de l'info, si vous le voulez bien, mais vous restez en ligne si vous le souhaitez, évidemment. À tout de suite.
Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook Le Forum de Midi.
Et aussi par SMS au 6031 sur le site lapremière.be et au téléphone au 02 737 3707. C'est le numéro qu'avait formé Patrick, qui est toujours en ligne avec nous, qui s'interrogeait justement sur les changements climatiques et le changement du climat. Est-ce qu'il va induire des phénomènes extrêmes? Alors, on va répondre d'abord à cette question avec vous, Michel Herpicom.
Oui, le changement climatique dont on parle, c'est le réchauffement global. Parce que le climat a toujours changé. Le climat n'est jamais resté stable. Ça, c'est la première chose que j'aurais bien voulu dire. Mais la deuxième chose que je voudrais signaler, c'est que pour mesurer la variabilité et la croissance du nombre de phénomènes sur un territoire, il faut avoir une histoire de ces phénomènes, un catalogue. Et ce catalogue n'a pas les mêmes valeurs quand on le constitue en 1950, que quand on le constitue maintenant, parce que pour le moment, tout ce qui se passe à la surface de la Terre et sur le territoire belge, le citoyen en a connaissance, et donc plus aucun phénomène ne nous échappe dans la statistique. Et donc on a peut-être l'impression maintenant d'une augmentation excessive du nombre de catastrophes climatiques, encore très petites à notre échelle quand on compare ce qui peut se passer dans le monde, par rapport au passé, et on ne peut pas encore dire. Les séries ne sont pas suffisamment longues et sérieuses pour dire qu'il y en aura plus pour le futur.
Alors ça, c'est la première partie de la réponse à la question de Patrick. L'autre question était de savoir si les phénomènes extrêmes comme on en a connu, par exemple, enfin extrêmes entre guillemets pour nos régions, évidemment, des pluies torrentielles, des averses de grêle en plein mois de juin, ou l'année dernière, cette tornade dans le Limbourg, est-ce que ça, ce sont déjà des effets du réchauffement climatique, de l'évolution du climat? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Patrick à cet égard?
Moi, je ne peux pas répondre de manière positive à cette question-là. Ce ne sont pas des effets, ce sont des constatations, parce que nous avons connaissance de ces événements-là. Et dans le passé, on ne parlait de ces événements-là que quand il y avait attaque dans les biens personnels ou... catastrophe humaine, si vous voulez. Mais quand quelque chose se passait au milieu de la campagne ou dans la forêt, on n'en avait pas connaissance. Et ça, ce sont des phénomènes extrêmement locaux, vraiment à l'échelle d'une aiguille dans une botte de paille. Et si on veut parler d'un effet du réchauffement climatique, moi, je ne vois pas d'effet de réchauffement climatique bien visible ici en Belgique, s'il faut le dire. Moi, je le dis comme cela. On ne constate pas en Belgique, on le constate dans le monde, bien entendu. Le réchauffement, il est réel.
Alors, par rapport aux conditions climatiques, un peu, entre de nouveau avec des guillemets extrêmes, on a fait référence avec la question de pratique à la tornade comme celle qui avait causé la catastrophe au Pukkelpop l'an passé. La probabilité d'un tel événement, elle peut être forte, elle peut être réelle, mais à un quart d'heure près, l'endroit n'est pas localisable, monsieur Meillier.
Exactement. On peut faire des prévisions sur le risque que de tels phénomènes se produisent. Ces prévisions sont en général assez bonnes, fiables, mais on ne peut pas prédire exactement où le phénomène se produira et quelle sera son intensité exacte.
Mm-hmm. Alors c'était une partie, hein. Patrick, vous êtes toujours en ligne, hein, je pense. C'était une partie de votre question, c'était comment prévoir, comment se prémunir. Je sais que l'IRM, à la suite d'ailleurs de cette tornade, a mis en place un service pour informer par exemple les festivaliers, mais pas seulement les festivaliers évidemment.
Oui, Monsieur c'est Mélier. Exact. Mm-hmm. Oui, c'est un service en fait assez complet. On peut s'abonner même pour recevoir les images radar, mm-hmm. Parler à un prévisionniste. Et donc, nous avons une liste donc, d'abonnés que nous prévenons dans le cas où nous pensons que des risques réels surviennent. Donc, mm-hmm. Mais c'est, encore une fois, c'est loin d'être une promesse. C'est simplement donner... Une information qui permet à l'utilisateur de se mettre en état de vigilance. Mmh.
Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Patrick ?
Oui, je prends avec intérêt de ces différentes réponses. Juste par rapport à ce que M. Ollier vient de dire, comment s'abonne-t-on justement à ce service-là ?
Ah, voilà, oui.
Ça serait peut-être mieux de faire ça hors antenne.
Non, dites-nous. C'est long à dire, non ? Sinon, on le mettra de toute façon sur notre site, hein, monsieur.
Il faut envoyer un email à l'IRM. Donc, vous allez sur leur site internet et tout sera expliqué.
Voilà, sur le site internet de l'IRM. Mais si vous voulez, on mettra tout ça noir sur blanc, enfin, si je peux dire, sur l'écran, si vous aurez votre ordinateur, sous le podcast de notre émission d'aujourd'hui, on fera ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à notre émission. Alors, une question peut-être à destination de... Merci beaucoup. Une question peut-être pour vous, avant de prendre Paul aussi, qui souhaite intervenir, je lui demande de patienter un instant, à Mélanie Arzé. Quand on cite les effets du réchauffement climatique, on cite la hausse du niveau des mers, les feux de forêt, la pollution atmosphérique, enfin tout ça. On parle assez moins souvent des maladies dont les vecteurs peuvent venir des pays plus chauds et ils peuvent causer des dégâts à la faune, à la flore. Est-ce qu'on a déjà des éléments comme cela on a déjà connaissance d'éléments comme cela? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se produisent, que l'on observe?
Alors, je ne saurais pas vous dire spécialement pour les maladies qui touchent les plantes.
Non, mais par exemple, les effets sur la... Oui, c'est ça.
Oui, mais je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux plutôt vous dire, c'est qu'un autre phénomène qui est aussi lié à ça, pas nécessairement un transfert de maladies, mais peut-être aussi... tout bêtement un transfert d'individus. Quand on parle d'espèces exotiques invasives, je veux dire, c'est aussi lié à ça. On ne sait pas encore très bien quelles conséquences peut avoir le climat sur ces espèces, mais a priori, ça peut avoir un impact non négligeable. Donc des espèces qui seraient peut-être mieux adaptées ici, d'autant plus si les changements climatiques sont avérés. Et voilà, maintenant, en termes de maladies, ça, je ne sais pas.
Non, mais d'impact sur la faune et la flore, par exemple, on voit déjà, ai-je lu, apparaître ou se développer des espèces qui bénéficient d'une certaine façon d'un déplacement et qui le font avec des espèces avec lesquelles elles sont en interaction.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est indispensable pour qu'une espèce puisse fonctionner. Elle a besoin de toute une série d'interactions biologiques qu'elle amène avec elle ou qu'elle trouve sur place. Mais tout à fait, ça c'est...
Très bien, on y reviendra évidemment dans un instant. Nous avons Paul donc qui patiente depuis tout à l'heure. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Merci
madame.
D'avoir patienté. On vous écoute monsieur.
Il y a quelques années, on avait évoqué la possibilité que le sens dans lequel le Gulf Stream parcourt l'océan Atlantique, le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe de l'Ouest, pourrait être affecté par la fonte des glaciers dans l'océan Arctique. Alors j'aurais voulu savoir si aujourd'hui on disposait d'indices qui permettaient de confirmer cette hypothèse ou quel était le point sur cette question.
Très bien, je vous remercie. Monsieur, vous pouvez rester en ligne si vous le souhaitez. Nous allons poser la question à la fois à monsieur Herpicom et à monsieur Mélier peut-être. Monsieur Herpicom.
Voilà. En fait, à ce propos, c'est un phénomène. Le Gulf Stream est simplement un passage, un tronçon d'une circulation océanique mondiale. Il nous favorise par sa température relativement douce, comme les vents viennent de l'ouest. Et il n'y aura pas, avant des milliers d'années, de changement significatif de cette branche de la circulation mondiale parce que la quantité de glace qui pourrait venir à l'heure actuelle du Groenland est tellement faible à l'échelle planétaire.
Voilà, Paul, vous êtes toujours là ?
Je vous remercie de l'information.
Très bien, on a répondu à votre question. Je vous signale d'ailleurs que j'ai plusieurs questions qui m'arrivent sur le Gulf Stream, par exemple ici par SMS. A-t-on des relevés qui montrent si le Gulf Stream ralentit ou non et quand ça pourrait se passer ? Vous venez plus ou moins d'y répondre, hein, Monsieur Herpicom, non ?
Oui, on peut peut-être. Juste à préciser. Ce n'est pas ma spécialité.
Hein. Non.
Mais on peut peut-être constater un ralentissement ou une diminution de la circulation, mais certainement pas une inversion de la circulation.
Non.
C'est ça que je veux dire.
Oui, ralentissement. Donc la question qui est posée par SMS, elle n'est pas à rejeter. Voilà pour cet auditeur ou cette auditrice, je ne sais pas son nom, qui nous avait envoyé ce message. Merci à Paul d'être intervenu. Une question peut-être à vous, Pascal Mélier, je rappelle de l'IRM. On a parlé en début d'émission des vagues de chaleur. On redemande la définition exacte d'une vague de chaleur. C'est pas avoir un peu chaud pendant une demi-journée. C'est autre chose que ça.
C'est autre chose.
Codifié. Hein.
C'est autre chose. Et pour avoir une vague de chaleur, une vraie vague de chaleur qui suit là notre définition, en fait, un jour en général ne sera pas suffisant, à moins d'avoir des valeurs extrêmement élevées. Mm-hmm. Donc la définition d'une vague de chaleur requiert un certain nombre minimum de nuits et de jours consécutifs, au cours desquels les températures minimum et maximum n'ont pas été en dessous de certains seuils préétablis. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose en fait d'assez complexe pour la prévision et aussi pour la vérification.
Mm-hmm. Mais donc c'est température élevée de jour comme de nuit pendant 1 à 3 jours et avec pas véritablement de répit pendant la nuit, c'est ça aussi. Hein.
Oui, et nous avons eu des contacts avec la santé publique et il apparaît même que le facteur crucial dans la détermination d'une vague de chaleur en fait devrait être plus la nuit que le jour parce que bon, quand les températures sont très élevées la nuit, les gens n'ont plus le répit, n'ont plus cette période un peu plus fraîche pour récupérer. Et ça peut affecter de manière très, très, très négative les gens qui souffrent de maux.
Qui sont fragilisés pour une raison quelconque.
Oui.
Très bien. Merci. Donc ça, c'était pour les vagues de chaleur. Alors ces vagues de chaleur ou ces conditions atmosphériques ou climatiques compliquées, elles affectent aussi, bien sûr, les agriculteurs et les activités dont ils se préoccupent. Nous avons un agriculteur en ligne, Pascal Boll. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, je le disais, pour les agriculteurs, ce sont les extrêmes, si l'on peut dire, les extrêmes à notre échelle, mais qui sont dommageables, non ?
Oui, mais bien sûr, s'il pleut, de la pluie, il en faut, mais quand il pleut tous les jours comme maintenant, bon, mm-hmm. on s'en stoppe, on ne sait plus faire de désherbage, on ne sait plus faire de semis, on a beaucoup de problèmes. Quoi.
Quel est le problème particulier ? Vous vous occupez plutôt de légumes, hein, je pense.
Oui, donc nous, pour le moment, on est en pleine production de fraises extérieures et pour nous, c'est une catastrophe. On jette 20% des fruits, il y a des pourritures, des fruits qui éclatent au niveau de la corolle à cause de l'eau. Mm-hmm. Bon, on doit stopper les cueillettes comme aujourd'hui, ben, de 10h à 13h30, on a dû stopper toutes les cueillettes parce qu'il pleuvait trop, donc c'est un gros problème pour nous.
Mm-hmm. Je me tourne peut-être un moment vers Mélanie Arzé qui fait des recherches donc, à l'unité de biodiversité et paysage à Jean Blou, Agrobiotech. Sur ces éléments extrêmes, c'est vrai qu'on a peu de prise, évidemment. Il y a personne n'est responsable de cette situation. Ah, on ne peut même pas incriminer quelqu'un, c'est ça qui est problématique.
Ah oui, non, c'est sûr. Oui. C'est sûr que personne n'est responsable. Et c'est clair que dans certains cas, ça peut avoir des conséquences importantes. Maintenant, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas toujours faire des généralités pour tout. Ici, c'est clair que bon, dans le cas de la culture de fraises, ça peut avoir de grands impacts. Mais je pense que tout le monde n'est pas touché à la même échelle dans tous les cas.
Mm-hmm. Monsieur Boll, est-ce que vous avez une possibilité on le sait maintenant, dans notre pays, on peut passer de forte quand même chaleur à une sécheresse, à des pluies diluviennes. Est-ce que vous avez une possibilité d'anticiper les dégâts qui pourraient être faits à vos cultures ? Ou bien est-ce que vous êtes un peu démunis à cet égard ?
Non, nous, on ne peut rien faire. Bon, la fraise, on doit l'accueillir quand elle est mûre, donc on ne peut pas dire on va l'accueillir 3 jours avant, 3 jours après. Donc, la pluie, on ne sait rien faire. Par exemple, quand il fait trop sec, bon, là, on s'est comblé par des arrosages et des apports d'eau par nous. Moi, je dis toujours, le soleil, on ne sait pas en apporter, mais de l'eau, c'est toujours en apporter.
Mm-hmm,
quand il pleut, comme pour le moment, juste subir et essayer de mettre une bougie à je ne sais pas quel sein pour qu'on ait un peu de soleil, un peu de sécheresse. Quoi. Mm-hmm.
Et je pense que le pire, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs la pluie, mais c'est la grêle, et il y en a eu l'autre jour, non? Pour les,
oui,
pour les légumes et les fruits. Hein.
Mm-hmm. Ouais, ça, c'est le pire de tout. Évidemment, quand il y a eu un orage de grêle sur une parcelle, elle est complètement détruite. Et là, c'est terminé. La culture, elle est finie pour l'année. Quand on est sous la pluie, bon, on a du dégât, c'est vrai. On a beaucoup de déchets et tout. Mais on récolte quand même quelque chose. Quoi. Mm-hmm.
Je vais passer la parole aussi à Michel Herpicom, tant que vous êtes là, Monsieur Boll, parce que ça concerne évidemment votre sujet. Mais peut-être encore juste une question à Mélanie Arzé à cet égard. Quelles sont les maladies ou les risques? C'est quoi? C'est les champignons, quand il y a trop de pluie, des champignons qui se mettent sur les cultures?
Oui, tout à fait. Je pense que les champignons liés à l'humidité, on peut peut-être parler du mildiou, etc. Je pense que les probabilités, les risques que ça peut représenter pour les cultures augmentent, tout à fait, oui.
Alors pour les fraises, elles sont gâtées, quoi.
Les fraises, je pense que c'est aussi un cas... je pense que tout ce qui touche un peu fruits et légumes, sont peut-être plus touchés que les grandes cultures céréalières, sont peut-être beaucoup moins touchés par ce genre de conditions. La pluviométrie a peut-être moins d'impact sur ce genre de culture qu'ici, sur des cultures qui sont au sol, qui restent dans l'humidité. Et oui, tout à fait, ça peut avoir des conséquences pour l'agriculteur vraiment dommageables.
Et le mildiou dont vous parliez à l'instant, ça c'est pour les pommes de terre, oui. Et c'est lié directement à l'humidité aussi?
Oui, je ne suis pas une spécialiste encore une fois, mais je pense que l'humidité et peut-être des températures un peu chaudes, humides, un temps un peu orageux, je pense que ça n'a pas une bonne influence, une influence positive. Maintenant, je ne suis pas spécialiste du mildiou. Donc,
non, mais enfin, voilà. Comme vous l'aviez cité, j'ai sauté dessus. Hein, tout à fait. La seule à citer le mildiou. Oups, là, le mildiou. Monsieur Herpicom aussi, sur ce que vient de nous dire Monsieur Boll, qui est toujours en ligne avec
voilà, je comprends bien que les agriculteurs soient dépourvus face à la variabilité du climat pour le moment. L'agriculture est moderne et, comme je le disais tout à l'heure, aussi plus vulnérable qu'avant des vicissitudes du climat. Et ils sont sans beaucoup d'aide technique pour se protéger contre tout cela. Mais ces phénomènes-là existaient dans le passé. Mais maintenant, comme les exploitations doivent être plus grandes pour pouvoir être rentables, il y a la concurrence mondiale qui existe, eh bien, ils ont un métier beaucoup plus dur et, je crois, beaucoup plus tracassant que dans le passé. C'est vraiment difficile, je pense, d'être agriculteur à l'époque actuelle où on doit lutter. Je pense à cette saison-ci, les pommes n'ont pas été bien fécondées. Et donc, la récolte sera mauvaise, quoi qu'il arrive. Donc, c'est trop tard. Mais ils n'ont rien pu faire là-dessus, parce qu'on a eu des situations atmosphériques qui empêchaient la fécondation. Et cette période-là a des répercussions pour les mois à venir, vous voyez.
Bien sûr.
Et ici, l'agriculteur parle de ses fraises au jour d'aujourd'hui. Mais c'est évident que 10 jours successifs de pluie, ou sans soleil, ou sans sécheresse, ou sans grand vent, mais ça perturbe la culture
de la fraise.
Ça perturbe
tout. Mm-hmm. Monsieur Boll, vous êtes toujours là? Oui.
Je
reçois à l'instant d'abord une question, puisqu'on a parlé de sécheresse aussi. Mais l'hiver, par exemple, exceptionnellement chaud, quand même, qu'on a connu là maintenant, est-ce qu'il a été ou non profitable à vos cultures?
Non, mais cet hiver, on n'a pas été chaud. On a quand même eu moins 15. Chez nous, on n'a plus connu ça depuis plus de 20 ans. Hein, donc, on a eu un hiver quand même assez rude. On pensait avoir des dégâts, on n'a pas eu de dégâts, donc de ce côté-là, on n'a pas trop de problèmes. Les cultures étaient bien parties au printemps, on a fait les cultures sous tunnel, bon, ça a été plus ou moins, on a eu aussi un peu de problèmes de pourriture, étant donné, comme il ne faisait pas trop chaud et tout. Mais bon, il ne faut pas non plus s'alarmer et pleurer tout le temps, parce que bon, la saison de fraise, quand même, nous, on produit de la fraise jusqu'à fin août, septembre. Bon, on a encore si on a deux bons mois, juillet, août, on peut encore se refaire, on peut se rattraper, quoi.
C'est
donc
ça, oui.
On aura raté une culture qui est celle de maintenant, d'accord, mais bon, c'est pas la fin du monde, non. Il faut
vous pouvez,
pas
oui,
faire pleurer tous vos auditeurs. Voilà quoi.
Non. OK. Peut-être vous faire part d'un message qui arrive sur Facebook. C'est un message de Bertrand qui dit « Les années passent et ne se ressemblent pas. Ça devrait nous encourager à diversifier nos méthodes de culture, dit-il. Pour ma part, humble jardinier en biodynamie, J'ai eu le plaisir de déguster des légumes de pleine terre bien avant mes voisins. Je pense pouvoir affirmer que les facteurs biotiques sont déterminants pour la réussite de la pousse et de la récolte. Il n'y a pas que la météo qui importe, nous dit Bertrand. Il y a aussi la qualité de vie du sol et surtout la couverture végétale. Et alors, il nous cite l'évapotranspiration, la formation d'humus, le captage en CO2 et j'en passe, nous dit-il. Sans arbres, le climat global ou local est altéré, ne correspond plus aux attentes des humains d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous, monsieur Boll, de ce message de Bertrand ? Ah, monsieur Boll est parti, zut, alors ça c'est trop bête, mais Mélanie va pouvoir nous répondre.
Oui, en fait, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le point que on ne peut pas, on n'a pas d'emprise sur la météo, mais ce qu'on peut faire, c'est en effet avoir une emprise sur nos conditions de culture et sur notre façon, enfin, une diversification qui feront que les cultures seront moins touchées par une météo plus désagréable. Donc ça c'est clair, je pense qu'il a vraiment mis le point là-dessus.
Oui. Et quand il parle de biodynamie, c'est quoi ?
Ah, ça, je ne sais pas.
Ah, zut, alors.
Je ne sais pas, biodynamie, non.
Si jamais Bertrand peut nous téléphoner alors pour nous renseigner, ça serait très, très bien.
Mais par contre, c'est clair que c'est ici, bon, il parle de son potager personnel. Il faut quand même se rendre compte qu'à l'échelle d'une agriculture nationale, bon, tout n'est pas possible non plus. C'est une évolution de la société qui est comme ça. Et...
Alors, une réflexion de Michel. À mon avis, c'est à votre intention, Pascal. Pascal Mélier de l'IRM, il dit, Michel nous écrit, la météorologie est la science exacte qui se donne pour but d'expliquer pourquoi le temps n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Vous aimez bien cette définition, elle est rigolote, non ? Ça vous convient ?
il y en a une autre du physicien Niels Bohr qui disait que la prévision... c'est très difficile, surtout quand il s'agit de prévoir l'avenir.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Une petite question avant de prendre Liliane en ligne. Les orages fréquents et très subis n'ont-ils pas comme raison toutes les antennes GSM et autres, monsieur Herpicom ? Est-ce qu'il y a une interaction à cet égard ? Nous demande quelqu'un par SMS.
Je ne crois pas, ça n'a rien à voir avec la perturbation du climat. Mm-hmm. La perturbation de notre climat, elle est plutôt due à ce que l'homme a fait de son territoire. En 50 ans, il a bouleversé la surface, donc l'interface entre le sol et l'atmosphère, en imperméabilisant d'un côté, en diminuant la rugosité en coupant des forêts ou en replantant ailleurs, en changeant l'affectation du sol avec des grandes surfaces et l'urbanisation des campagnes. Et là, on change le bilan de rayonnement. Donc, tout ce que nous avons changé dans notre environnement... ici sur notre territoire, a perturbé aussi le climat de manière locale, je pense là, tout de même, en changeant l'interface et donc la variabilité à l'échelle locale. Donc il y a des endroits où on a augmenté le risque de temps instable ou d'orage et d'autres endroits où on a favorisé de l'humidité puisqu'on a dû planter ou créer des surfaces d'eau plus grandes pour avoir une réserve d'eau suite aux sécheresses de 1976, par exemple.
Alors, nous avons Liliane en ligne. Bonjour, madame.
Mais bonjour, je voulais vous saluer tous et dire combien votre émission m'intéresse et est bien, bien passionnante.
Merci beaucoup.
Et aussi combien je suis d'accord avec pratiquement tout ce qu'on a dit, donc je n'ai vraiment qu'une chose à rajouter.
Oui.
J'habite le Brabant wallon et je vois, même sans faire de la prospective, je vois d'année en année se dérouler des phénomènes qui sont pour moi, on peut peut-être les améliorer parce que chaque année il y a d'énormes coulées de boue qui envahissent nos villages et qui sont dues certainement à mon humble avis, au fait aussi que les nouvelles cultures, non seulement le monsieur parlait d'imperméabilité, moi j'ai l'impression que c'est une perméabilité causée par les grosses machines qui vont beaucoup plus profondément dans le sol et qui permettent donc le sol d'être beaucoup plus meuble. Mais il y a aussi le fait qu'on a enlevé toutes les haies et souvent aussi les talus qui avant étaient soutenus par des arbres qui les fixaient au sol. Et je pense que s'il y avait une politique, je sais bien que j'ai pour les agriculteurs une grande tendresse parce que je crois qu'il faudrait beaucoup mieux les soigner. Simplement, je veux dire qu'au point de vue politique, c'est peut-être pas le moment parce qu'ils n'ont plus beaucoup de sous. Mais s'ils pouvaient aider à refaire ce qui a été défait, mettre des arbres, mettre des talus, mettre des haies, et puis ce qui a existé avant. Je ne suis pas une passéiste, je vois simplement les dégâts que cause chaque année toutes ces coulées de boue dans les villages, et dans, y compris dans le mien. Je pense que c'est quand même dommage de, que toute cette bonne terre qui appartient aussi à la, aux agriculteurs quand même s'écoule dans les égouts. Ça ne doit certainement pas être très bon non plus.
On et va demander, voilà, oui, madame, pardon, je vous interromps, mais on a, il nous reste une minute trente d'émission. Je voudrais bien que, non, mais je voudrais bien que Mélanie Arzé de Jean Blou Agrobiotech puisse vous répondre, évidemment. Voilà.
Merci à vous. Merci madame, beaucoup. Madame. Bien, voilà. Merci, au revoir, bonne journée.
Oui, donc effectivement, je pense que certaines pratiques agricoles vont un peu dans un mauvais sens. Donc effectivement, il y a moins de haies, il y a plus de tassements et donc plus de risques d'écoulement. Il faut aussi bien noter le fait que s'il y a plus de conséquences sur la population, c'est aussi parce que l'urbanisation est croissante, et donc c'est aussi l'urbanisation qui va se mettre au bord des champs, là où elle n'était pas, et donc il y a plus de conséquences pour les gens qui habitent là, mais parce qu'il n'y avait pas de maison là avant. Mmh. Et puis, je pense que, enfin, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais dans tout ce qui concerne un peu, justement, replanter des haies, essayer d'améliorer la biodiversité, la diversité en milieu agricole, il y a quand même beaucoup de mesures agro-environnementales qui sont en place. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont vers cette voie-là. Ils sont conscients des problématiques actuelles et donc voilà, c'est pas, ils sont pas à blâmer dans tous les cas.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Liliane. Il y avait encore beaucoup de questions. Et alors Bertrand nous écrit ce qu'est la biodynamie. Alors je vous le livre. La biodynamie prend en compte tous les facteurs interagissant avec le monde vivant, ce compris les planètes, les micro-organismes de tous bords et l'énergie du cultivateur lui-même. C'est plus vaste comme domaine, mais je pense que c'est un résumé plutôt correct, nous dit Bertrand. Je le remercie de nous avoir éclairé sur le sujet. Et pour la suite, eh bien, ce sera pour une autre fois parce qu'on n'a plus le temps de continuer. Merci à Michel Herpicom, Mélanie Arzé et Pascal Mélier d'avoir été avec nous, et Pascal Boll également par téléphone. Et je vous retrouve lundi pour un nouveau Forum de Midi.
Retrouvez le Forum de Midi tous les jours de la semaine, de midi à 13h sur la Première.